Bonjour Frédéric.
Bonjour Charlie.
Comment allez-vous ?
Super bien. C'est l'été, j'adore l'été.
Ah, c'est une belle période ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans À la fraîche, le rendez-vous estival de Fréquence Mistral. Tout au long de l'été, je vous propose de prendre une petite pause fraîcheur en découvrant des femmes et des hommes passionnés qui partagent leur parcours, leur univers et ce qui les anime au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre un peu particulière, chères auditrices et auditeurs, celle entre l'humain et le cheval. Derrière l'équithérapie se cache une relation faite d'écoute, de confiance, d'émotion, certainement beaucoup d'autres choses, même si je l'ai vécu, qui permet à de nombreuses personnes de retrouver un équilibre ou de reprendre confiance en elles. Mais avant de parler de vos chevaux, Frédéric, j'aimerais revenir au début de votre histoire et tout simplement avec la question qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, Frédéric ?
Waouh ! Ça commence fort !
Votre parcours ?
Qui êtes-vous ? Moi, j'aime me définir comme une femme sensible. C'est ce qui me caractérise le plus et intense. Et je crois que cette sensibilité et cette intensité, je les ai mises au service de l'accompagnement. J'ai toujours voulu en fait être thérapeute depuis que je suis toute petite. Et c'est un parcours qui a été assez contrarié puisque mon père, qui était une personne qui avait vraiment des problèmes psychologiques importants, était très critique à l'égard des psys. J'ai souvent entendu « les psys sont des cons », etc. Et donc, je pense que ça m'a empêchée d'aller vers ce métier tout de suite. Et j'ai fait Sciences Po, j'ai eu un métier très, très sérieux. J'ai fait du lobbying dans le monde politique. Et à un moment donné de ma vie, justement, à la mort de mon père, il s'est suicidé. Et je me suis dit, mais toi, tu vas continuer à vivre une vie d'imposteur, une vie où tu ne fais pas ce pour quoi tu es faite. Et ce n'était pas possible. Et ce virage, je l'ai pris un jour de mai 2000, où j'ai entamé une formation qui a changé ma vie, en fait, une formation à Montréal. J'ai choisi d'être thérapeute en relation d'aide et pendant 4 ans, j'ai fait des allers-retours à Montréal pour me former à l'accompagnement parce que c'est l'approche avec laquelle...
J'allais vous dire, pourquoi Montréal ?
Pourquoi Montréal ? Parce que c'était vraiment l'approche qui me correspondait. Je ne crois pas à la neutralité bienveillante. Moi, ce qui m'a le plus aidé dans les thérapeutes que j'ai rencontrés, c'est qu'ils puissent être empathiques à mon égard, que je sente que je sois aimée comme j'étais, accueillie avec mes zones d'ombre. Et en fait, j'ai eu envie de travailler avec une approche qui intégrait ça. Donc, où on s'exprime, on partage du ressenti et on peut transformer en fait quelque chose. On accueille des gens, on leur apprend à s'accueillir, à s'accepter comme ils sont, sans jugement. Et j'ai fait ce cheminement pendant 4 ans et je me suis formée au Canada et j'habitais Paris à l'époque. Et mon diplôme en poche, j'ai quitté mon job, j'ai quitté Paris et je suis venue m'installer dans les Alpes de Haute-Provence parce que ce sont mes racines maternelles.
D'accord.
Ma grand-mère avait une maison ici et c'est l'endroit où je me suis sentie le mieux depuis que je suis toute petite, où je guérissais quand j'étais malade. C'était vraiment un endroit qui était bon pour moi. Donc j'ai décidé d'installer mon cabinet à Digne-les-Bains et une nouvelle aventure de ma vie a commencé où je me sentais vraiment à ma place et je me sens toujours à ma place. Le jour où ce ne sera plus le cas, je ferai autre chose.
Vous parliez tout à l'heure de votre envie d'accompagnement.
Oui.
Est-ce que ça, vous parliez presque de l'enfance tout à l'heure, ça se traduisait comment cette
À 5 ans, ça c'est ma grand-mère qui me l'avait dit, à 5 ans tu disais que tu voulais être psychanalyste. Mais je ne sais pas d'où ça sortait.
Incroyable.
Je ne sais pas où j'avais entendu ce mot, je ne savais même pas de quoi je parlais, mais je l'ai toujours dit en fait, que je voulais être thérapeute. Et psychanalyste même, ce qui n'était plus du tout le cas à l'âge adulte, mais en tous les cas, c'était vraiment une envie profonde. De grandir en fait avec une personne malade psychiquement, ça crée en fait une approche différente de l'existence. Et du coup, pour moi, c'était important d'accompagner aussi des gens dans leur parcours, apprendre à vivre avec aussi la maladie parfois, et comment reprendre les rênes de sa vie, comment arrêter de subir sa vie. Et vraiment, l'approche avec laquelle je travaille, qui travaille sur les émotions, puis maintenant avec l'accompagnement avec les chevaux, c'est très complémentaire en fait, parce que ça permet vraiment de connecter tête et cœur, tête et corps, et de redevenir une personne entière. Parce qu'aujourd'hui, on privilégie beaucoup le mental, on muscle beaucoup notre mental, et on se retrouve avec des gens qui sont complètement déconnectés de leur corps et qui ne savent plus quoi faire de leurs émotions, comme si les émotions étaient un problème, alors que les émotions sont notre boussole, sont notre guide dans la vie. Et ça part toujours de l'émotion. Le mental est au service de l'émotion, permet de mettre des mots, sinon c'est le chaos. Mais vraiment, moi, mon idée, c'est de reconnecter tête et corps, de devenir un humain entier, complet, qui se sert de ce qu'il ressent pour se diriger dans la vie.
Vous avez eu pendant de nombreuses années un lien encore avec Paris.
Oui.
Vous avez été célèbre. Vous avez participé à une émission.
Oui, toute une histoire qui a été une très, très, très belle aventure. J'avais été choisie. Après, tout le monde me dit « t'as été pistonnée ». Pas du tout. En fait, un jour, j'ai reçu un appel de Réservoir Prod qui m'a dit « voilà, on cherche un thérapeute de couple ». À l'époque, je m'étais formée en thérapie de couple aussi. Et elle m'a interviewée pendant 2 heures. Et après, la productrice, elle m'a raconté un peu l'histoire en background. Et la journaliste lui avait dit « j'ai trouvé une thérapeute qui est pas mal, mais elle est à Digne-les-Bains », sous-entendu au trou du cul du loup. Et en fait, Stéphanie Guérin, la productrice, avait fait le pari de faire venir cette thérapeute de Digne-les-Bains.
Elle est incroyable, cette histoire, quand même.
Oui.
Parce que c'est loin, tout ça.
C'est loin.
Et puis, vous êtes rapidement, du coup, dans le grand bain.
Exactement.
À la vue de tout le monde.
Oui. Et la première émission, c'était un « Ça se discute » à la Maison de la Radio. Donc, une émission en public avec Jean-Luc Delarue, avec 500 personnes dans le public. Donc, quelque chose de très impressionnant. Et sur le plateau, à un moment, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, en fait ?» Voilà, au milieu de tous ces gens. Et dès que j'ai ouvert la bouche, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré être là, partie prenante, aider les gens sur le plateau, éclairer leur histoire. Ça m'a tout de suite...
Une révélation.
Ah oui, complètement. Mais vraiment. Mon compagnon de l'époque était dans le public et je pense qu'il avait plus peur que moi. Et dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai vu après les images, il était soulagé de voir que ça
comme
y est.
Un poisson dans
oui,
l'eau.
Oui, comme un poisson dans l'eau. Et puis la productrice m'avait dit, vous verrez, Jean-Luc Delarue, il est très hard. C'est-à-dire qu'il faut réagir tout de suite, sinon il ne vous donnera plus jamais la parole
D'accord.
de l'émission.
Oui, petite pression.
Ouais, une grosse pression dès le départ. Et en fait, ça a été très ludique, l'échange qu'on a eu tous les deux. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. C'était quelqu'un de très intuitif sur le plateau, qui savait vraiment interviewer les gens, qui souvent il disait less is more, et c'est vrai, c'est-à-dire de laisser la place aux gens, de leur laisser l'espace pour s'exprimer. Et il savait très, très, très bien faire ça. Et j'ai beaucoup aimé travailler peu, mais avec lui, c'était une expérience très enrichissante.
J'imagine que ça devait résonner aussi en vous, cette idée de laisser la place aux autres de s'exprimer, parce que c'est quelque chose qu'on fait peu, ou en tout cas qu'on n'a pas naturellement l'habitude de faire. Soit on parle parce que le silence, mon Dieu, c'est quoi ?
C'est quoi
dérangeant. Le silence, c'est dérangeant. Ou soit on prend de la place, quoi, tout simplement.
Exactement.
Parce que...
On comble le vide parfois, donc savoir laisser cet espace aux gens avec une véritable écoute, il avait vraiment ça, et je pense que voilà, c'est aussi une de mes forces. Je pense que souvent j'ai ce retour-là de cette capacité d'écoute et puis cette écoute bienveillante. Je cherche toujours vraiment à... Bien sûr qu'on a des jugements parfois, on se dit waouh, comment on va faire ? Et puis en fait, le chemin il se fait toujours. C'est fascinant une séance de thérapie parce que en une heure, on fait tout un cheminement. Il y a toujours une boucle, toujours un moment où ça se dénoue, où le travail se fait. Donc, comme avec les chevaux, il faut faire confiance au processus. Et puis, au cadre qu'on instaure, qui permet que des choses adviennent, que des prises de conscience se fassent et qu'une transformation s'opère.
Alors, vous parlez de cadre, justement, Frédéric, mais pour connaître votre lieu... D'histoire,
oui.
de famille,
oui.
Qui est aussi votre cabinet,
oui.
Et puis de consultation, et aussi le lieu où vivent vos chevaux.
Oui.
Y a énormément de lien. D'ailleurs, je vous le partage, ça me donne un peu des frissons rien que de pour connaître le lieu, quoi. Parce qu'il y a de l'âme dans tout ça.
Ça me touche que vous l'ayez senti.
Ben là, ça me revient là, donc ça veut dire qu'il y a un truc. Oui. Mais parlez-nous un peu de cet endroit, parce qu'on va arriver petit à petit sur l'équithérapie. Oui. J'aimerais qu'on puisse visualiser là où vous êtes, là où sont vos deux chevaux, et que vous nous les présentiez juste après. Oui.
Ce lieu, c'est un lieu qui m'a été transmis par ma grand-mère chérie, ma grand-mère maternelle, qui est vraiment une personne phare dans ma vie.
Vous l'avez dit.
Oui.
C'est elle qui avait identifié.
C'est elle qui a transmis ce lieu et qui a eu l'intelligence de nous faire une donation et de donner à ma mère, à ma tante et à mon frère et moi. C'est-à-dire qu'on a eu tout de suite la possibilité de vivre sur ce lieu. Et c'est un lieu où je guérissais, où ça a toujours été un lieu ressource pour moi. C'est un lieu qui est solaire, qui fait du bien, qui est dans la campagne, à une demi-heure de Digne, qui est paisible, qui est un lieu de ressourcement, où en fait, c'était mon rêve de vivre là. Et mon rêve, c'était aussi de pouvoir permettre que les gens profitent de ce lieu. Moi, j'ai la chance d'avoir eu cette transmission. Et je pense que quand on a cette chance-là, c'est important de la partager, en fait, de faire profiter d'un endroit. Parce que pourquoi moi j'ai ce petit bout de terre en fait, j'ai rien fait de plus ou de moins que les autres, donc moi c'est important pour moi que des gens puissent y venir, même les gens qui ont déjà fait des séances d'équicoaching puissent revenir voir les chevaux, même si je suis pas là, qui est vraiment, d'ailleurs il y a une de mes voisines qui est très 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 âgée, elle me dit depuis que tes chevaux sont là, je viens faire un petit pèlerinage de temps en temps et puis je m'assois et puis je les observe et ça me fait du bien. Et en fait, c'est passé exactement pour moi, c'est-à-dire que la présence des chevaux fait du bien, leur présence non prédatrice fait du bien.
On en parle comment ils s'appellent? Comment s'appellent vos chevaux?
Ils s'appellent Melchior de Corbie et Volcan d'Auvergne.
C'est assez précis.
Oui, c'est précis.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, c'est déligné. Les chevaux ont déligné et par exemple Melchior, c'est un cheval qui vient de Normandie et c'est lui qui m'a initié à l'équicoaching. Ma fille avait les championnats de France en 2015, je crois, avec lui et il s'est blessé sur le dernier obstacle du dernier parcours et on est revenu en pleurant avec un cheval blessé, etc. Et en fait, toute sa convalescence, il nous a montré ce que c'était la connexion avec un cheval. Alors qu'on montait à cheval depuis des années. Moi, je monte à cheval depuis toute petite, mais je savais pas ce que c'était être vraiment en lien avec un cheval.
J'allais vous demander, c'est quoi ce lien à l'enfance avec... Donc, il y en a un, du coup.
Oui, il y en a un. Moi, j'ai toujours aimé les chevaux. Ils m'ont toujours fascinée. En même temps, ils m'ont fait peur. J'ai eu beaucoup de chutes de cheval, mais j'ai toujours aimé leur présence, mais sans savoir exactement ce que c'était la relation avec un cheval. Et je n'ai su ça que grâce à Melchior. Pendant qu'il était blessé, il nous a vraiment montré ce qui lui faisait du bien, ce qui n'allait pas. Il nous a guidés, en fait, et dans ce parcours. Ça a correspondu à l'arrêt de toute une histoire. Et il y avait comme un vide, en fait, qui était laissé pour moi dans ma vie. Et je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'aller un peu plus loin dans ma relation aux chevaux, avec ce que j'avais découvert avec Melchior dans sa convalescence. Et du coup, je suis allée me former auprès de quelqu'un qui était vraiment un homme cheval, c'est-à-dire un homme très congruent, un homme qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, et qui m'a vraiment transmis tout ce qu'il savait sur l'accompagnement des chevaux et sur la relation aux chevaux, savoir les écouter et être nourri par cette sagesse non prédatrice. Parce que la sagesse non prédatrice est très différente de la sagesse prédatrice. Les non prédateurs, les chevaux, pourquoi ils nous apportent autant? Parce que, en fait, ils ont développé une agilité émotionnelle extraordinaire, parce qu'ils doivent repérer si vous êtes dangereux ou pas. Et donc, en arrivant dans un pré, c'est comme un scan, en fait. Le cheval fait un scan pour voir, Voilà, il sait exactement capter votre état émotionnel et leur organisation de troupeau est inspirante aussi pour notre manière d'être en relation les uns avec les autres.
On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, mais vous parliez de transmission. Dans ce que vous dites là aussi, il y a beaucoup de transmission dans ce que vous dites depuis le début de l'émission, et même une transmission auprès de votre fille, de cette passion du cheval, du coup.
Oui, ma fille a été monitrice d'équitation. Là, maintenant, elle a repris des études, elle est professeure d'histoire géo, mais je lui ai transmis cette passion et j'ai animé des stages avec elle. Elle a un rapport aux chevaux qui est très impressionnant. Ma fille est très assertive, c'est-à-dire elle est vraiment capable d'incarner une intention. Et les chevaux nous aident à montrer notre assertivité, à montrer notre leadership. Et souvent, pendant les stages, sa manière d'être extrêmement posée, extrêmement ancrée, est très inspirante aussi pour les personnes qui viennent se faire aider.
Pourquoi avoir choisi l'équithérapie ?
Parce que, en fait, je voulais faire profiter aux gens du bienfait.
La médiation animale, ça existe avec d'autres animaux aussi.
D'autres animaux, oui.
D'autres animaux. Mais pourquoi l'équithérapie ?
Alors, les chevaux ont quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que ce sont à la fois des animaux non prédateurs, mais des animaux qui sont puissants. Les non prédateurs, il y a les lapins, les poules, etc. Mais ça ne fait pas le même effet qu'un cheval. La puissance du cheval, et le cheval est dans la vie des humains depuis des millénaires. Et donc, le cheval est présent dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient humain. Il y joue une place très importante. Il a joué un rôle très important dans la vie des humains. Il nous a permis de développer l'agriculture. Il nous a permis d'être nomades. Il nous a permis de
nous déplacer, oui.
Ou de nous déplacer. Ils ont fait la guerre aussi avec d'ailleurs beaucoup, beaucoup de pertes. Il y a aujourd'hui un monument qui est dédié à tous les chevaux qui sont morts pour la guerre. Le cheval a accompagné l'humain. C'est un animal qui, je dirais presque que les chevaux ont fait un pacte avec les humains. C'est-à-dire que la domestication, si un cheval ne veut pas sur le dos, il vous éjecte très, très facilement. Mais je pense que ils ont fait un pacte de protection et d'apport mutuel. Il y a vraiment cette idée, moi, je trouve, chez les chevaux, qu'il y a un partenariat qui a été fait à un moment donné avec les humains. Ils ont accepté la domestication parce qu'ils y ont trouvé aussi un intérêt. Souvent, on valorise effectivement les animaux à l'état sauvage, mais il y a une éthologue, Hélène Roche, qui a montré qu'un cheval, par exemple les Mustangs américains, ils ont une espérance de vie entre 8 et 9 ans. Un cheval qui est domestiqué, il peut vivre de 35 à 45 ans. Donc il y a vraiment cette idée que oui, l'état sauvage, c'est un état enviable, et en même temps, il y a un intérêt, je pense, aussi pour les chevaux à avoir accepté la domestication. C'est pas tous les animaux qui ont accepté la domestication. Donc c'est vraiment intéressant de voir la place du cheval aux côtés de l'homme pendant des milliers d'années, en fait.
On va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
Avec plaisir.
Morning light, don't scratch my eyes. Just let me wash up on the shore. I used to have the strangest dreams, but they don't come here anymore. My duvet's laid out like an atlas, with stains to mark the borderlines. Indentations in my pillow, I hope won't fade with time. The roach left in the ashtray on which I choked the night before. Stubbed my toes on dirty clothes, like mountain ranges on the floor. I pick my way through crusty dishes in their greasy chemistry. I wash two cups and then remember that you've left already. Funny. just when I think I found my calling, it's another morning, They say the devil's in the detail, I'm gonna blur my eyes instead. I put my memories in a landscape where only reckless angels tread. And watch the fingerprints you left fly, a secret code upon my skin. And I remember when you told me a gilded crown won't make a king. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, but sometimes it doesn't show. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, let the conversation flow. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, but sometimes it doesn't show. I really want you to stay, but I know you have to go again. I let you go so reluctantly, and I can still hear your lazy symphony. And just when I think I've found my calling, it's another morning, but I know you have to go. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, but I know you have to go. I really want you to stay, but I know you have to go. Have to go again.
On est de retour dans l'émission À la fraîche, l'émission estivale de Fréquence Mistral. Merci Frédéric d'être avec nous pour cette émission. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'équithérapie exactement ?
Alors l'équithérapie ou l'équicoaching...
Si on rentre dans la technique un peu.
Oui, c'est une approche où les chevaux sont des accompagnants. C'est-à-dire que moi je suis coach et les chevaux sont mes partenaires. Il s'agit non pas d'apprendre quelque chose sur les chevaux, il s'agit d'apprendre quelque chose sur soi. Et pour autant, au début d'une séance, je donne des indications sur qu'est-ce que c'est la sagesse non prédatrice des chevaux. Être un non prédateur, c'est très différent d'être un prédateur. Mmh. Un prédateur, dans la prédation, il y a des rapports de domination. Chez les chevaux, il y a des rapports de coopération. Donc, c'est une organisation qui est horizontale. Mmh. Et les chevaux sont très sensibles au leadership. Donc, les séances d'équicoaching permettent à la fois de mesurer son niveau de leadership, de confiance en soi, d'assertivité, permettent de travailler le rapport aux limites. Toutes choses importantes pour les chevaux. Un cheval, ce qui est important pour lui, c'est que ce que vous allez lui proposer... d'adhérer à ce que vous proposez, pas de le dominer. Mmh. Donc, c'est vraiment de créer la relation de confiance qui permet de faire des choses avec les chevaux, c'est-à-dire d'expérimenter, de créer, et tout ça grâce à la connexion émotionnelle.
En préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait l'idée que le cheval était le miroir de la personne qui était là pour être accompagnée dans sa séance, quoi.
Oui. Merci pour cette question, parce que souvent il y a un malentendu sur la notion de le cheval comme miroir. En fait, cheval miroir, c'est pas le cheval fait comme moi. Mmh. Donc par contre, ce que le cheval permet, c'est qu'il me montre quel impact a ma manière d'être dans la relation.
Ok. C'est le reflet.
C'est plutôt un reflet, mmh. Exactement. Donc c'est comment ma manière d'être émotionnellement, ce que j'amène dans la relation, impacte la relation. sans que j'en ai conscience parfois, puisque le cheval, il va vous checker instantanément et il va vous renvoyer des choses dont vous n'avez même peut-être pas conscience. C'est pour ça que c'est très puissant, l'accompagnement avec les chevaux, parce qu'on n'est vraiment que dans l'émotionnel. Donc le cheval, il va vous scanner émotionnellement, il se fout complètement de votre statut social. En fait, le cheval n'a pas de jugement sur nous. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que si quelque chose ne fonctionne pas dans la relation avec un cheval, ça nous invite, nous, à modifier notre comportement, à être créatif sur, ça fait appel à notre cerveau droit, donc à être créatif pour trouver une autre manière de faire en sorte que la relation fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est puissant et que c'est propulsant et que c'est toujours positif une séance, dans le sens où ça me permet de comprendre des choses sur moi. Et comme les chevaux ne sont pas dans le jugement, si je modifie quelque chose, instantanément, le cheval va réagir autrement.
Il y avait des... Encore une fois, en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait des publics de personnes en situation de handicap, ou alors même de personnes atteintes d'Alzheimer, donc de perte de mémoire, et que le bienfait, il était là dans prendre soin du cheval, par quoi ça passe en fait ?
Ça passe par justement une connexion qui n'est pas du tout mentale. Y a des chevaux qui sont très très sensibles, plus particulièrement sensibles au handicap. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différence de comportement, par exemple, des chevaux avec les enfants ou certaines personnes en situation de handicap. Ça s'explique aussi parce que dans un troupeau, les chevaux vont toujours c'est comme chez les éléphants, les chevaux vont toujours se caler sur le plus faible. Donc ils vont prendre soin. Ils vont se caler au rythme du plus fragile, au rythme du plus vulnérable, pour effectivement prendre soin de la vulnérabilité. Pour quelle raison ? Pour ne pas être des proies vis-à-vis des prédateurs. Donc il y a cette connaissance chez le cheval de la vulnérabilité, de la peur. C'est quelque chose qui n'est pas du tout un problème, contrairement à tout ce qu'on enseigne dans les centres équestres. La peur avec les chevaux n'est pas un problème. La peur, c'est ce que connaissent principalement les chevaux. La peur, c'est ce qui leur permet de se protéger, c'est ce qui leur permet de détecter un prédateur à des centaines de mètres, avant même que nous, on ait perçu qu'il y avait un danger. Donc c'est ce qui leur a permis de survivre pendant ces milliers d'années. Le cheval, c'est un des animaux qui a le moins évolué en termes de... Le cheval d'il y a 5000 ans, il ressemble vraiment au cheval d'aujourd'hui, parce qu'il a cette agilité émotionnelle qui a fait qu'il a traversé les temps. Donc il y a cette sensibilité à la vulnérabilité. Dans un troupeau de chevaux, on se cale sur le plus fragile et le plus faible. Et d'ailleurs, quand on fait une séance dans le champ avec les chevaux, quand la personne est en difficulté, par exemple, si on travaille les limites, si c'est une personne qui, par exemple, a subi des abus, a été envahie tout au long de son enfance, et je propose des expériences pour tester les limites et apprendre aux gens à mettre des limites. Souvent, il y a un de mes chevaux qui est beaucoup plus sensible au sujet des limites, qui débarque, mais au triple galop, même s'il est au fond du champ, il arrive et il se met entre la personne et moi pour montrer à la personne qu'est-ce que c'est mettre une limite. C'est impressionnant. Et parfois, même dans l'interaction qu'on peut avoir avec cette personne, le cheval me fait reculer pour montrer à la personne qu'est-ce que c'est être à la bonne distance.
Il lui montre.
Exactement. Il lui montre c'est quoi la bonne distance de sécurité. Et parfois, l'espace personnel, il est grand. Et les gens ne savent pas qu'ils ont un espace personnel. Et souvent, ils pensent qu'il est tout petit. Et c'est pour ça que les gens se laissent envahir et qu'ils se retrouvent dans des situations inextricables, parce qu'ils ne peuvent pas mettre à distance les gens. Et les chevaux apprennent ça, mais c'est d'une précision au millimètre. C'est-à-dire, parfois, ça se joue effectivement à un millimètre. Et une fois que la personne et moi sommes à la bonne distance, le cheval s'en va. Il a régulé la situation, il a montré à la personne qu'est-ce que c'était oser poser des limites tranquillement, sans agressivité, mais avec fermeté. Ça, les chevaux apprennent ça, l'assertivité. C'est un concept très vertueux. C'est-à-dire, c'est la capacité à formuler des demandes sans crainte, mais avec fermeté. Et les chevaux nous permettent de développer ça. Et c'est souvent quelque chose, d'ailleurs, il y a une différence beaucoup entre les hommes et les femmes que j'accompagne. Les hommes, souvent, n'ont aucun problème avec ce concept. Et puis les femmes, c'est plus compliqué d'oser formuler une demande à l'autre et de s'affirmer dans cette demande. Elles ont toujours peur de déranger et souvent, c'est ce qui se passe. Elles me disent « Oh, mais je veux pas l'embêter. Oh, mais il a envie de brouter. » Donc, elles se mettent dans la tête du cheval. Mais le cheval, c'est pas un problème pour lui.
À la place d'eux.
Voilà. Mmh. C'est pas du tout un problème pour lui qu'on lui mette des limites. Ils savent ce que c'est, les limites. Et ils aiment aussi qu'on respecte les leurs. Parce qu'il y a des exercices qu'on propose aussi pour connaître le champ, l'espace personnel du cheval.
Oui, parce qu'on se retrouve, la séance se déroule dans le champ, directement.
Exactement.
Avec les chevaux.
Exactement.
Et c'est une succession effectivement d'exercices,
oui.
J'allais dire d'activités, mais en tout cas d'exercices.
C'est ça, d'expérience, en fonction de ce qui se passe aussi, de l'intention que la personne a posée en début de séance, mais c'est aussi de ce qui se passe avec les chevaux, parce que tout ça, c'est du vivant. Si vous arrivez dans le champ et que les chevaux sont en bombe parce qu'ils viennent passer un tracteur ou qu'il y a les grosses balles de foin et que les miens, et c'est comme s'ils n'avaient jamais vu des balles de foin et que du coup, c'est hyper apeurant, donc vous ne pouvez pas tout de suite dire oh, « bah, je vais être en relation avec toi, viens vite ». Non. En fait, ce que les chevaux apprennent aussi, c'est respecter l'autre, respecter le rythme de l'autre, respecter le temps de l'autre. Et ce qu'ils nous apprennent aussi, c'est à être dans l'ici et maintenant. Le temps du cheval, c'est le kairos, c'est-à-dire l'action juste au bon moment. Et l'action juste, elle ne peut être que dans l'instant présent. Et en fait, la difficulté souvent, c'est que nous, humains, on est tout le temps dans le passé, à ressasser, ou alors dans un futur, quand j'aurai un amoureux, je pourrai faire ci, je pourrai acheter un appartement, j'irai au restaurant, etc. Voilà.
On se projette.
Oui, mais on n'est jamais là, vraiment.
C'est le plus difficile, oui.
Alors que le seul endroit où on peut agir, c'est dans l'instant présent. Et les chevaux ne vivent que dans l'instant présent.
Ça vient accélérer ça. Les chevaux viennent accélérer ça au sens où la séance, déjà, ce n'est pas une séance qui dure 30 minutes, une heure. C'est un peu plus long.
Oui.
On est dans un cadre qui est... en tout cas, on est dans une situation d'expérience, quoi. En tout cas. Et on se retrouve là. On prend le temps avec les chevaux. C'est une séance, alors je ne sais plus, c'est 2h30, 3h.
Deux heures et demie, voire trois heures parfois en fonction de ce qui se passe. Ce sont des séances entièrement personnalisées et qui font avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est un véritable apprentissage pour nous. Et dans l'agilité émotionnelle des chevaux, ils peuvent avoir peur de quelque chose, mais ils ont besoin de retourner brouter le plus rapidement possible parce que s'ils ne retournent pas brouter, ils sont plus vulnérables, ils sont moins en forme et donc ils vont être plus vulnérables à la prédation. Et même nos chevaux domestiqués continuent de fonctionner comme ça. Et ça, c'est très inspirant. Et souvent, moi, je dis en séance, même en séance de psychothérapie, en fait, nous, nos difficultés, c'est qu'on ne retourne pas brouter. On continue à dire « Ah ouais, j'ai eu peur, et puis la dernière fois, et puis ci, et puis là. » Et puis on ressasse.
Cogite.
On ressasse. Les chevaux ne ressassent pas, ils ne peuvent pas se permettre de ressasser. Parce que sinon, s'ils ne mangent pas, ils ne sont pas en forme et ils peuvent être plus vulnérables pour les prédateurs.
C'est plus trivial, plus dans l'instant présent.
C'est l'instant présent. Et puis, le concept de retourner brouter, moi, je l'adore. Je l'adore. Et souvent, je me le dis, retourne brouter, parce que là, c'est bon. C'est passé, tout s'est bien passé, tout va bien se passer. Et ils nous apprennent ça aussi. Et puis, ils nous apprennent une vraie présence.
Qu'est-ce qu'on observe et on va clôturer cette émission, mais qu'est-ce qu'on observe le plus après une séance d'équi-coaching?
Alors, une prise de conscience de l'impact de mon fonctionnement dans la relation, une prise de conscience de comportements dont on n'avait pas, où la lumière n'avait pas été mise dessus, plus de confiance en soi.
Est-ce qu'on est dans le corps, hein?
Oui, et aussi une notion de qu'est-ce que c'est mes limites, qu'est-ce que c'est mon espace personnel. Plus de capacité à s'affirmer aussi et à expérimenter, d'oser se manifester, être plus vivant, plus présent et d'incarner son leadership naturel. On a tous un leadership naturel qui ne demande qu'à se déployer. Mais pour ça, c'est d'oser se manifester dans le monde. Et pour ça, il n'y a que l'instant présent. Si avec un cheval, vous n'êtes pas présent... si vous avez il vous marche sur le pied, c'est 600 kilos sur le pied, ça fait plus mal que, voilà. Donc, c'est vraiment, ils nous apprennent ça, cette qualité de présence et aussi plus de joie. Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, l'instant présent, c'est l'endroit où il y a la joie. Et tous les gens qui expérimentent ça le ressentent et ont envie de retourner vers cet état d'être où je ne suis pas dans mes angoisses, où je ne suis pas dans mes inquiétudes face à l'avenir, mais dans ce moment présent où il n'y a pas cette angoisse. Il n'y a pas d'angoisse dans le moment présent, il n'y a que la joie. Et moi, c'est vraiment, aujourd'hui, mon credo, c'est de proposer ça aux gens, de retrouver leur joie de vivre.
Merci Frédéric, merci pour ce partage.
Avec plaisir.
Vous nous avez rappelé que la relation entre l'humain et le cheval peut devenir quelque part formidable. En tout cas, c'est ce qu'on retient de notre discussion et notre échange là. D'apaisement aussi et de mieux-être à la sortie.
Oui.
Et cet ancrage dans le corps qui vient rendre visible qui on est émotionnellement, ce qu'on souhaite vraiment en termes de limites, etc. Je trouve que c'est cette expérience qui permet de faire avancer aussi nos chemins et notre façon de penser.
Pour ajouter juste une petite chose pour rebondir sur l'ancrage dans le corps. Ouais. En fait, l'expérience ancrée dans le corps a beaucoup plus d'impact que si elle est que dans la tête. Le corps se souvient de l'expérience et il peut la reproduire.
Il l'enregistre.
Exactement.
Merci d'avoir pris ce moment à la fraîche avec nous. À très bientôt sur Fréquence Mistral.
À bientôt.